RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, Monsieur Muscle, avec moi, salut Yodieu.
Oui, monsieur Arbalète, monsieur Gringalet. Salut à tous, ça va?
Ça va, impec. Écoute, merci à toute la communauté RMC Running pour la fidélité. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur Instagram, sur Strava, le club RMC Running. Vous laissez des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement, Apple, Spotify ou Deezer. Un hors-série pour mettre à l'honneur une toute nouvelle discipline aujourd'hui. Ça s'appelle l'Aerox. Plus grande épreuve de fitness au monde, c'est une discipline qui est accessible à tous, qui rassemble les coureurs, les spécialistes du crossfit, les triathlètes. Pour vous présenter l'Aerox, on va accueillir plusieurs invités. Anouk Garnier,
ami d'Aerox. On connaît.
Salut Anouk, multiple championne du monde de course à obstacles, coach sportive et mentale, ambassadrice Paris 2024, si ça c'est pas quelque chose. Ça va Anouk?
Oui, ça va et toi? Ça va les garçons là?
Ravi de te
retrouver. Ça roule.
Ouais, c'est cool.
On accueille également Geoffrey Voisin qui est le numéro 1 français de l'Aerox. Salut Geoffrey.
Salut à tous. Plaisir d'être avec vous.
Et bienvenue, comme ça tu es bien placé pour nous parler de cette discipline. Et on accueille un membre de la famille RMC, vous ne le connaissez pas et pourtant c'est grâce à lui que vous écoutez l'antenne tous les jours. Il est réalisateur de l'émission Rotten sans flamme tous les jours du lundi au vendredi de 18h à 20h. Il est passionné de crossfit, il a assisté à l'épreuve parisienne, c'est Quentin Barber. Salut Quentin.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Ravi que tu sois là. Allez. Avec nous. Et je précise d'ailleurs qu'il y aura un bon plan dossard qui sera assez sympa si la discipline vous intéresse. Des dossards pour l'épreuve d'Aerox de Nice. Voilà, on en aura 3 à faire gagner. Soyez attentifs, il y aura un test d'écoute. Alors enfilez vos baskets. Attachez vos lacets, ça va courir, pousser et tirer.
Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau défi, l'Aerox.
Aerox. The tagline is, it's the World Series of Fitness Racing.
J'ai compris, c'est pas simple, mais j'ai compris.
Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple.
C'est une course de fitness, un mélange de course à pied et d'exercices fonctionnels. Similaire au CrossFit, il met l'accent sur l'entraînement fonctionnel à haute intensité.
Alerte générale !
L'Aerox, c'est 8 km de course à pied combiné avec des exercices. On a le ski erg, le sled, les burpees, le rameur.
Ça va pas rigoler. Hein.
Non, ça va pas rigoler. Les garçons, faites attention à vous. Je peux lâcher un rampé comme ça. Ah,
voilà. Métier.
Première chose, t'arrives en général sur toute la planète Aerox dans un hall d'exposition. Vous avez tous fait peut-être une foire ou quoi ou autre ou un festival là-dedans.
Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente.
Moi, à la base, j'étais gymnaste, en fait. Donc, j'ai vraiment de la gymnastique et j'aimais faire le singe dans la salle, quoi.
Mais vous êtes fou. Oh oui.
Qu'il est fort, ce Geoffrey Charpentier.
Très bon. Enfin,
la production sonore vous présente l'Aerox aujourd'hui. Anouk est là, Geoffrey est là, Quentin est là lui aussi. Anouk, tu rentres d'Abu Dhabi?
Oui, c'est vrai. Oui,
la
je suis
Spartan
arrivée ce
Race,
matin.
Format court.
Oui, en fait, il y a un nouveau format qui a été créé cette année. Donc, c'est un format très court quand même parce que c'est 1000 km. 1000 mètres.
Ouais. Ça, c'est court.
C'est court, ouais.
Très court. 1000 mètres, pardon, sur un tour de qualification où il y a 10 obstacles.
Okay.
Et ensuite, si on est pris en finale, il y a 3 tours de cette boucle de 1000 mètres à faire.
Okay.
Et moi, j'ai pas été dans la finale. Je me suis retrouvée 10e de la qualification, ce qui déjà est top. Et en fait, il y en avait 8 qui étaient en finale. Voilà. Mais il y avait un gros niveau d'athlète parce que c'était que sur invitation. Et puis, il faut y aller à Abu Dhabi quand même. Mais c'était très sympa. Très sympa de tester ce nouveau format.
Donc,
très violent.
Pas forcément déçu, un petit peu quand même.
Un petit peu de pas avoir fait,
finale,
voilà, de faire la finale après de ma performance. Non, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Voilà. Au bout de 600 mètres, j'ai failli mourir, mais ouais. Sinon, je veux dire, tout va bien, quoi.
Ouais, c'est quand même la folie de ces disciplines. Et nous, on voulait parler de l'Aerox. C'est quelque chose, une tendance qui commence à monter comme ça en France. Ça arrive tout juste. La première étape a été organisée en France. Vous y étiez d'ailleurs tous les trois. Rappelons rapidement ce qu'est l'Aerox. Ça a été créé en 2017 par deux personnes, j'espère que je vais bien le dire, Christian Tutzke, je crois que c'est ça, le PDG, voilà, et un champion de hockey sur gazon, triple médaillé olympique, qui s'appelle Moritz Fürst. En fait, leur idée, c'était de mélanger endurance et puissance. Vous avez en tête, si vous nous écoutez, l'image du crossfit, peut-être le sport en salle comme ça. Il faut vous imaginer une sorte de séance de crossfit avec, entre chaque exercice, 1 km de course à pied à effectuer. C'est à peu près ça, Geoffrey ?
Exactement. C'est, pour clarifier simplement, c'est 8 km de course et 8 épreuves intercalées de 1 km et une épreuve.
Voilà.
Donc simplement 1 km, une épreuve, et 8 fois.
À tous les coureurs qui nous écoutent, pour que vous ayez un ordre d'idée, donc Geoffrey est membre de cette discipline de haut niveau, les plus rapides courent entre 3:30 et 3:40, Yodu. Donc ça veut dire que ouais, tu t'envoies...
Tu récupères pas.
Voilà, tu t'envoies des exercices à bloc et ensuite tu cours à une vitesse très très relevée. Le cœur ne redescend jamais finalement.
Bah, on a quand même des stratégies pour redescendre finalement, mais bon, globalement, c'est quand même ça reste assez haut pendant une heure.
Ouais, c'est ça. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, à votre avis, Anouk, toi qui es aussi spécialisée là-dedans, la course à obstacles, le coaching sportif, ouais. Est-ce que tout le monde peut s'y mettre?
Ouais, moi j'ai fait aussi des Aerox, donc j'ai fait mon premier en 2021.
Ouais.
Effectivement, le cœur est très très haut, parce que une fois, je crois que j'ai fait pendant une heure à plus de 180, voilà, donc t'es content.
Ah ouais.
Mais en fait, moi j'ai participé aux formats qui sont les plus difficiles. Après, ce qui est intéressant dans l'Aerox, c'est qu'il y a des formats accessibles en relais. Hein, c'est ça, Geoff, en relais avec chacun qui va faire deux épreuves. Il y a aussi en duo. Ouais. Et il y a aussi une possibilité d'avoir une catégorie où les charges sont un petit peu plus légères et donc de se relier sur cette partie entraînement. Ce qui fait que c'est vraiment accessible à tout le monde et il n'y a pas vraiment de limite de temps, quoi. Donc du coup, bah, on peut prendre son temps, on peut faire... souvent, on prend la récup, en fait, le kilomètre.
C'est ce que j'allais dire. C'est de la récup. Quel est le moment de récup? Est-ce que c'est le kilomètre couru ou est-ce que c'est l'exercice? Parce que l'exercice, c'est quand même... Ouais. On va le détailler d'ailleurs avec vous trois, les exercices qui sont demandés, mais c'est plutôt la course à pied qui te permet de faire redescendre un peu tout ça.
Ça dépend de chacun. Je pense que Geoff, non, parce que les élites, ils en voient très fort tout le temps. Il y a, comme il disait, il y a des petites stratégies de petites récup, de faire des pauses peut-être régulières. Mais après... Ça dépend. Moi, pour moi, c'est effectivement la course où je vais essayer de redescendre un peu.
Pas pour moi, pour le coup. Moi qui viens du crossfit, clairement, la course, c'est là où je meurs. Les exercices à côté, ça va.
Ouais, ça dépend des courses.
Ouais, c'est ça, ça dépend du profil. Ouais.
Comme toi, tu es habitué à des courses à obstacles, par exemple, forcément.
Voilà, ouais, cette partie course à pied, on essaye de se calmer un peu. Voilà. Mais...
Donc, nous, on vous présente cette discipline parce qu'elle peut avoir un intérêt comme ça de se varier, un peu de changer les idées et d'aller travailler aussi musculairement. On l'avait déjà dit plusieurs fois avec Anouk, se renforcer musculairement et pourquoi pas avec une discipline ludique. Est-ce que c'est un truc, tu as regardé des vidéos, Yodu, on vous invite à le faire d'ailleurs sur YouTube par exemple. Est-ce que c'est une discipline qui t'attire, toi, qui t'intéresse? Tu trouves ça comment, le concept?
Bah, quand je vois les corps des athlètes, je me dis que va falloir que je m'y mette pour l'été prochain, pour le body summer. Mais honnêtement, je connaissais le crossfit et tout, mais le Aerox, quand il m'en a parlé, je connaissais pas, donc bien évidemment, je suis allé voir. Et effectivement, c'est ultra intéressant parce que c'est vraiment la combinaison entre la course et des exercices un peu fonctionnels que même moi je peux pratiquer, tu vois, des fentes, des trucs comme ça, tout ce qui va être travail d'agilité, de force, de puissance. On va le travailler des fois sur une certaine partie de saison, tu vois, en pré-saison ou c'est pendant des séances de muscu. Mais nous, moi de mon côté, je l'intègre pas avec de la course, tu vois. Et effectivement, là, le fait de mêler les deux, bah ça peut être intéressant pour les athlètes qui veulent un peu changer leur pratique un peu. Et puis du coup, ouais, c'est des exercices quand même qui sont fonctionnels et qui sont intéressants à faire pour le coureur. Ouais.
Geoffrey, toi, tu avais un profil de crossfitman. Tu faisais du crossfit au début?
Alors, je faisais pas du tout du crossfit. Hein, un peu comme...
tu fais course à obstacles aussi?
Ouais.
J'ai fait beaucoup de courses à obstacles. Ouais. J'étais toujours en fait passionné de sport. Je courais beaucoup, mais jamais vraiment en haut niveau et à une compétition qui me... Voilà, j'avais pas de sport particulier, on va dire.
Ok. Et comment tu te retrouves à pratiquer l'Aerox alors?
L'Aerox, en fait, c'est venu en 2021, parce que lors du confinement, on se faisait un peu... On s'emmerdait. Et en fait, ils avaient lancé un challenge. Alors, je sais pas comment je suis tombé dessus, parce que des fois, on sait jamais comment on tombe dessus sur les challenges. Ils ont fait un challenge pendant 5 semaines. Chaque semaine, on devait délivrer un challenge un peu style. C'était un workout qui durait 10-15 minutes. Enfin, bon, en gros, ça m'a fait connaître la discipline. Je m'en suis intéressé. Et en 2021, j'ai vu une Aerox qui avait lieu à Stuttgart, donc près de la frontière Strasbourg. Et j'ai dit à ma copine, écoute, tu connais Strasbourg? Elle m'a dit non. Écoute, on va passer un week-end à Strasbourg.
Ah, il est malin.
Non, mais il faut être très malin en couple. Et là, j'ai découvert en 2021 l'Aerox et c'est devenu presque une évidence.
Toi qui es un spécialiste de CrossFit, mon petit Quentin Barbeur, pour une fois que tu es devant le micro, donc tu as un podcast, tu peux nous rappeler le nom du podcast d'ailleurs?
Drop In, le podcast.
Drop In, consacré au CrossFit. Quelle est la différence fondamentale entre le CrossFit et l'Aerox? C'est uniquement la distance de course à pied?
Non, en fait, la différence, ça va beaucoup se faire sur des mouvements qui n'existent pas en Aerox. Au CrossFit, par exemple, on a intégré de la gymnastique, on a intégré de l'haltérophilie, donc avec les barres. Ça, en Aerox, ça n'existe pas. En fait, ils ont juste gardé le principe fondamental du CrossFit, qui est monter le cardio très haut et faire quelque chose de à forte intensité,
ouais,
sur une période très longue, donc c'est une heure. En CrossFit, c'est les WOD, ils sont rarement au-dessus de 15 minutes.
Qu'est-ce que c'est qu'un WOD?
C'est un entraînement du jour.
D'accord.
L'entraînement du jour, quand on va sur une séance de CrossFit, on a un entraînement qui va durer entre 15 et 20 minutes.
Ok.
Là, il faut savoir que l'Aerox, c'est pour le commun des mortels, je ne parle pas des gens comme Geoffrey, c'est 1h30, 1h40 environ en moyenne. Voilà, on a vraiment enlevé les disciplines compliquées qui demandaient beaucoup de technique et on a gardé la base et vraiment le côté cardio.
La différence d'ailleurs, vous qui étiez habitué à l'imprévu, et avec la course à obstacles et avec le CrossFit, parce que finalement, quelqu'un qui fait de la compétition en CrossFit ne sait jamais à quoi s'attendre sur la compétition.
Ouais, exactement.
C'est que là, on connaît le programme tout le temps, en fait. C'est toujours la même chose, Geoffrey. Tu te présentes sur une compète, tu sais exactement ce que tu vas faire, ce qu'on va te demander.
C'est un peu l'intérêt de ce sport. En fait, ça devient vraiment un sport avec ses spécificités. Donc, quand vous avez vos résultats, vous avez les résultats de chaque workout, chaque running.
Ouais.
Donc, ça permet aussi de trouver des axes d'amélioration, de savoir où on est bon, moins bon.
Toujours les mêmes, toujours organisés de la même façon.
Toujours la même façon. Et on sait combien on est classé par exercice.
Okay.
D'accord, si on voit qu'on est 300e, on dit la prochaine fois, j'aimerais bien être 192e.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Voilà,
donc tu peux déterminer tes points faibles et tes points forts d'entrée, quoi.
Déjà par rapport aux autres et après par rapport à soi-même, parce qu'en fait, la course, comme c'est la même d'une fois à l'autre, j'ai mis 2 minutes 40 à faire mes burpees. La prochaine fois, peut-être que je mettrai 2 minutes 35, etc. Donc c'est aussi un axe d'amélioration et surtout une vision de préparation. En fait, ça nous permet de nous préparer au mieux à la prochaine course.
Toi, Johan, le coureur de haut niveau, le coach aussi de running, est-ce que tu y vois un intérêt justement pour les passionnés de course à pied, pour une sorte de respiration dans l'entraînement, je sais pas, sur une période hors spécifique pour aller travailler comme ça la musculation?
C'est ça, sur une période hors spécifique pour couper avec le côté course à pied, tout le temps la même chose, répétitif, histoire de se renforcer et de faire du renforcement général, ça peut être intéressant. Parce que il y a le côté cardio, donc là normalement l'athlète, le mec qui court, il va gérer la partie course et du coup il pourra vraiment se concentrer sur tout ce qui est exercice. Et effectivement, ça permet de voir autre chose et quelque part de se renforcer, de s'étoffer un peu. Et donc en termes de prévention de blessures ou autre, je trouve que le truc est quand même assez intéressant. Mais après c'est comme tout, faut y aller de façon graduelle et y aller de façon progressive. Hein. C'est pas un truc qui est, pour moi c'est à faire en début de saison quand on sort d'un objectif et qu'on veut se relancer avec un objectif à long terme et se dire pendant un ou deux mois je pars sur un autre sport et puis en plus comme ça j'ai pas la pression du chrono, j'ai pas l'impression de m'entraîner avec le stress des séances compétition et tout, c'est pas la même chose vu qu'on n'a pas de référence sur ces exercices-là. Ouais.
Anouk, comment tu vois ça en tant que coach, toi aussi? Est-ce que c'est dégradant musculairement déjà? Est-ce que tu le payes? Je sais pas, quand tu sors d'une compète, combien de temps tu mets pour t'en remettre? Geoffrey a un profil particulier, mais...
Franchement, t'as des bonnes courbatures. Ouais. T'as des sacrées courbatures pendant 3 jours, mais vraiment intenses. Au niveau des cuisses, des fessiers, moi perso, c'est ça à chaque fois.
C'est le bas du corps qui est très très sollicité.
Ouais, fait, peut-être qu'on peut détailler aussi les différents workouts. Et en fonction de ça, en fait, je te donnerai mon point de vue.
C'est les muscles qui sont sollicités.
Ça démarre avec le
premier,
ski erg, là, c'est ça.
Le ski erg, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
C'est le moment du ski de fond, en fait.
C'est l'appareil du rameur, mais version skieur, en gros. On va chercher les poignées en haut. On a 1000 mètres à faire.
Ouais.
Donc, c'est assez long, 1000 mètres. Je ne sais pas combien tu mets, Geoff, toi, mais moi, je mets 8 minutes. Non, 4:30 quand même. Tu vois, c'est quand même un truc.
Ah oui, c'est long.
C'est un des workouts les plus longs.
Ouais.
Après, ça dépend des profils et points forts, mais c'est quand même assez long.
C'est quand même assez long.
Qu'est-ce qui est difficile, alors, là?
Dans celui-là, moi, perso, je trouve que c'est après ton premier 1000 mètres où t'es parti un petit peu haut quand même. Tu pars toujours un peu haut. Et en fait, c'est ce côté aussi où tu te penches en avant. Donc ta respiration, elle est un peu comme bloquée, tu vois.
Okay.
Et il y a cette différence de niveau. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens qui me gêne. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un peu le feu, tu vois. T'as tout le monde qui va hyper fort sur le ski. Donc tu veux suivre parce que tu veux pas sortir en dernier, tu vois, de la zone. Donc voilà, il y a ce truc-là. Je sais pas ce que tu ressens, toi, Geoff.
Non, après, c'est plus une continuité cardio. Donc pour moi, c'est pas le plus gênant au final parce que tu sors d'un run qui est cardio, tu repars sur quelque chose de cardio, donc ça va. On va dire, ça permet de lancer. Après, c'est. Tout se joue en fait aussi, avant tout ça, c'est l'échauffement, quoi, d'être bien chaud avant de partir pour pas accuser le coup à ce moment-là.
Ouais.
Mais c'est pas là qu'on se casse complètement. Après, je veux dire, pour le commun des mortels, enfin, je veux pas, voilà, pour la plupart des gens, c'est clair que voilà, on leur dit toujours modérez bien votre premier run pour arriver au ski et modérer encore le ski. Et au fur et à mesure, on commence à monter l'intensité. Quoi.
Ouais, moi, je suis un peu comme Anouk, comme j'ai tendance à partir toujours très très vite, trop vite. J'arrive sur le ski, je sors de là, je suis carbonisé, j'ai du mal à relancer. Le cœur reste très haut, donc du coup, c'est un peu compliqué.
Voilà, ouais, c'est ça. Et moi, plusieurs fois, pour être honnête, je suis sortie du ski et je me suis dit je vais crever, je ne peux pas finir.
Il en reste des kilomètres.
C'est ça, t'as rien fait, t'as fait un truc.
Bien sûr. Il y a d'autres exercices. Il y a, bon, après, c'est des noms américains, ouais, mais on peut les détailler. Le sled push et le sled pull, en fait, c'est tirer une charge et la pousser aussi sur une certaine distance. C'est quoi la distance, d'ailleurs?
C'est 50 mètres. En fait, c'est des allées de 12 mètres 50. Et en fait, tu as 4 fois à faire.
Okay. Pour imager pour les gens, c'est un peu ce qu'on voit quand les rugbymen ils poussent pour la mêlée. Ouais. Tu sais, c'est ces gros chariots. Bah, là, c'est la même chose, mais pour une seule personne.
C'est ça. Ouais. Avec des charges.
Sur
des
50 mètres.
Des poids différents.
Sur 50 mètres. 150 kilos à pousser et 105 à tirer, je crois.
Voilà. Après, pour les femmes. En
après, c'est deux choses différentes. On va dire le push, ça a quand même un effet très physique. Ça pompe beaucoup d'énergie.
Pousser, c'est plus dur que tirer.
En fait, pousser, c'est plus rapide, mais plus dur. Ça demande beaucoup. Ouais. En fait, c'est un petit peu l'image d'un jeu vidéo. On a sa jauge d'énergie et rapidement, on perd une grosse partie de cette jauge d'énergie. Alors que le tirage, c'est beaucoup plus long, mais c'est plus technique finalement. T'es moins dans le cardio, t'es moins dans l'intensité, mais c'est plus en fait, des fois, les gens s'embrouillent un petit peu avec la corde. En fait, c'est plus un côté technique, on va dire.
D'accord.
Par rapport au sled push.
C'est ce que j'allais vous dire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques à apprendre? Je sais pas, est-ce que tu pousses d'un coup? Est-ce que tu fais des pauses? Est-ce que tu fais ce que tu veux d'ailleurs?
Tu fais ce que tu veux. En fait, il faut savoir que tout est instinctif au final. Avec ou sans technique, on va y arriver. C'est un peu ça l'intérêt de l'aérox, c'est qu'il n'y a pas besoin de technique.
Mais t'es peut-être dans une démarche de te préserver au maximum pour et durer.
Dans la performance, après évidemment, on a des tips, on a des techniques particulières pour s'économiser. On dit, là je fais 5 mètres, je fais une pause, je fais 10 mètres, je fais une pause, etc. Après, chacun voit sa technique. Après, il y a des stratégies à mettre en place en fonction des profils. Quoi.
Le sled, c'est peut-être le moment où il faut économiser ses jambes quand on voit ce qui arrive après. Ouais. Là, tu peux forcer plus en dos peut-être pour économiser tes jambes pour la suite.
Voilà.
Et tu vois, si je reviens en termes d'entraînement, parce qu'on parle de mouvement fonctionnel, pousser une charge, là, à chaque fois, on pousse beaucoup plus dans une jambe à chaque fois, puisque c'est des pas. Donc, tu alternes droite-gauche tes jambes. Ouais. Et en termes de fonctionnel, ben, c'est hyper ce qu'on appelle transférable sur la course à pied. Ouais. Parce que c'est exactement ce que tu vas faire. Et pour des gens, par exemple, qui vont préparer des trails avec un peu de dénivelé, ça va être extrêmement intéressant. Moi, cet hiver, j'ai fait beaucoup de sled, pas forcément pour préparer un aérox, mais parce que j'aime bien ça. Alors, je suis très spécial, mais j'aime bien. Mm-hmm. En fait, ce qui est intéressant aussi sur le sled push, c'est que le lendemain, ça laisse très peu de traces parce que c'est ce qu'on appelle du concentrique. Donc, derrière, tu as peu de courbatures. Ouais. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant. Et en fait, ça se transfère très bien dans les côtes. Donc, pour les coureurs, si vous avez un exercice que vous pouvez utiliser, c'est vachement intéressant d'avoir cette charge à pousser devant vous.
Parce que avant de continuer le détail justement de chaque exercice, c'est ce que j'allais dire. Là, on parle de compétition pure et dure. Donc, pour un runner qui nous écoute, s'il s'inscrit à une compète, c'est qu'il est sur une période basse de son entraînement running ou trail et qu'il se dit, je vais me lancer un autre défi pour m'aérer la tête. En revanche, tu peux utiliser certains entraînements.
Exactement.
Pour justement parfaire ta condition physique pour ta pratique de la course à pied.
Carrément.
Donc, tu peux utiliser ce type d'exercice en gardant un dosage bien défini. Pour ne pas t'handicaper sur tes objectifs de course à pied qui arrivent. Quoi.
Carrément. Ça, c'est un bon truc à garder, je trouve. Et puis même, je trouve que l'aérox, de manière générale, tu peux vraiment l'utiliser bah, justement pour développer cette condition physique, comme disait Yodu, un petit peu hors saison. Quoi.
Nous, l'intérêt de parler de cette discipline, Yodu, pourquoi on a choisi de le faire? Parce qu'on a toujours du mal et on a toujours les profils qui reviennent, que ce soit trailer ou coureur, amateur ou professionnel, qui négligent un peu cette partie renforcement musculaire. Tu le sais, on a parlé ensemble, Manouk. Et c'est peut-être le côté ludique de le faire dans une salle, de le faire avec des personnes et de préparer un objectif commun.
C'est ça.
Donc c'est ça aussi, c'est toujours l'effet de groupe qui fonctionne et qui peut t'amener à le développer. Où est-ce que ça se pratique? C'est ça la question. Où est-ce qu'on peut pratiquer l'aérox alors? Comment ça se passe?
L'aérox, en fait, en France, il y a plusieurs. En fait, c'est un système d'affiliation. Donc, les salles sont affiliées en fait à aérox. Okay. Donc, il y a une espèce de cahier des charges. Ok, il faut tant de rameurs, tant de wallball, etc. Donc, ça se passe souvent dans les salles de CrossFit.
Okay.
Il y a souvent des cours collectifs organisés. Et après, selon les salles, il y a un sled, etc. Donc, on peut pratiquer dans toutes les salles où on peut retrouver, on va dire, trois quarts des machines. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément tout le matériel et on peut aussi toujours pallier en faisant des exercices différents.
Après, il faut toujours être encadré. Enfin, vaut mieux être. Tu ne peux pas te lancer sur un exercice comme ça sans être accompagné un peu au début, en tout cas. Quand tu vas dans une salle, Quentin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, mine de rien, il y a des mouvements où il faut avoir une petite visu extérieure parce que ça évite de faire des mauvais gestes. On peut penser au sled, notamment quand on commence à pousser un peu trop en dos ou même sur le tirage, le wall ball, ça reste des mouvements simples. Mais il faut faire un peu attention, il y a des petits standards à respecter si on va avoir un mouvement vraiment propre et vraiment se préserver au maximum.
Ouais, c'est pour ça qu'en fait, en aerox, il y a quand même des catégories de poids. En fait, on peut aussi le faire d'une manière avec des poids, on va dire, beaucoup plus légers. Mm. Et du coup, au niveau technique, ça s'acquiert quand même beaucoup plus facilement.
Bon, en fait, il y a une catégorie. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je m'inscris, je choisis les poids que je vais devoir tirer, pousser, etc.
En fait, en simple, il y a deux catégories. Il y a soit ce qu'on appelle catégorie open. Okay. Une catégorie avec des poids, on va dire, moins lourds, et la catégorie pro. Donc pro, ça ne veut pas dire professionnel, c'est juste le nom de la catégorie qui s'appelle pro, et ça, c'est les charges plus lourdes. D'accord. Donc, c'est la différence. Donc, on conseille aux gens qui ne sont pas forcément habitués plutôt de se mettre en open au début. Ouais. Mais c'est la même compétition, c'est-à-dire que tu es quand même classé par catégorie d'âge, tu es classé, tu as un podium. D'accord. En fonction de ta catégorie.
Un podium open, un podium pro, ouais, peu importe.
Et par catégorie d'âge, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Voilà. Âge et sexe, évidemment.
Âge et sexe aussi.
Non, mais ça, c'est intéressant pour un runner.
Carrément. Fois,
parce que tu limites le poids, donc tu limites la charge
musculaire. Non, mais oui, tu n'es pas obligé de mettre 125 kilos.
Ouais, c'est ça.
À chaque
c'est
fois,
ça.
Ouais.
Ouais, ouais. Tu pousses combien sur les trucs comme ça, alors?
Le sled, on va dire. Le sled, c'est un peu l'image. Les gens ont l'impression que c'est extraordinaire.
175.
Ouais, ça fait 202 kilos avec le sled, en fait.
Ok.
202, mais évidemment, il y a un tapis, on n'est pas sur.
Ouais, ouais. Pas sur du gravier, quoi.
Voilà.
Heureusement.
Dans tous les cas, ça se pousse, mais après, c'est la manière qu'on va le pousser et le temps qu'on va passer dessus.
Ouais,
mais on va dire, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, 202 kilos, ça peut être très dur, alors qu'on en vend 30. En gros, la catégorie open, on enlève 30% de toutes les charges pro. Mm. Donc, on enlève 30%. Et ça passe beaucoup mieux, quoi. Et tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement. Quoi.
Donc 202 kilos, c'est plus de 3 fois Yodu. Donc tu mets 3 Yodu dans le scénario.
Justement, des fois, on est en problème de poids, donc si Yodu peut y venir.
C'est ça. Mais là, avec toutes les raclettes que je mange, je peux dire que.
On va te mettre sur une luge, on va te pousser.
Ouais, c'est ça. Mais c'est le crossfit aussi, c'est le même principe. Mais il faut être accompagné quand tu commences, Anouk. Tu peux pas te lancer.
Non, c'est bien. Après, franchement, c'est des exercices qui sont tellement faisables et qui demandent pas une technique folle. Tu vois, on n'a pas fini de dire les exos, mais il y a du burpee. Soit en longueur,
oui.
Tu vois, un burpee, bon, bah, tu te mets la poitrine au sol et tu sautes, tu vois.
Voilà,
ce que
burpee,
je veux dire.
C'est tu te mets au sol et
voilà,
tu
poitrine
rebondis
au sol, et là, tu as un saut en longueur à faire, voilà. Et tu as 80 mètres de distance. C'est là que tu te rends compte que 80 mètres, c'est extrêmement long.
Ah oui,
c'est
que du poids de corps, en revanche. Là,
voilà, c'est pour ça. Et après, le sled, entre guillemets, même si c'est lourd, bah, en fait, c'est assez instinctif, comme disait Geoff, et je trouve que tu peux pas vraiment avoir une mauvaise technique avec un dos rond et te faire trop mal, tu vois. Mm. Pas comme quand tu vas soulever une barre. C'est pas la même chose encore, tu vois.
Mm. Après, il y a du rameur. Bon, ça, c'est pareil.
Ouais,
après,
1000 mètres.
Rameur, pareil, tout le monde peut le faire. Après, il y a une manière d'être plus efficace, évidemment, sur un rameur. Ça reste en plus, c'est un sport, le rameur.
Ouais, bien sûr. C'est impressionnant. D'ailleurs, les champions d'aviron font des compètes de rameur pour s'entraîner et tout. Allez voir aussi sur YouTube, c'est assez impressionnant. Ouais. Les compètes de rameur, c'est tous enfermés dans une salle comme ça, c'est une vitesse folle.
Et ça tire.
C'est vrai que c'est fou. Donc, on finit peut-être les catégories. Là, on a fait tout ça. On a fait les sled push, les sled pull, les rameurs, les burpees.
Il nous manque le farmer carry. Donc, c'est en fait, on a un kettlebell. Donc, vous voyez, le kettle, c'est la boule avec une poignée au-dessus.
Ok.
Et qu'il va falloir porter.
C'est comme un medicine ball avec une boule.
C'est ça, avec une poignée.
Avec une poignée, pardon.
Voilà. En fait, c'est la marche du fermier. Vraiment, c'est ça.
Okay.
T'en as un dans chaque main et en fait, t'as 200 mètres
à
faire.
En fait. Ouais,
c'est exactement
ça.
Mais des courses très lourdes, du coup.
Ouais. T'as acheté 6 packs de cristalline.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Les garçons, je crois que vous avez 2 x 32.
C'est, en gros, c'est 16 pour les filles, 24 pour les filles pro ou les men. Et les pros, c'est pro hommes, c'est 32. Après, il faut savoir que c'est l'épreuve la plus courte, en fait. En soi, c'est pas. Presque l'épreuve la plus facile. Parce que finalement,
ouais, tu portes les deux poids.
Tu portes deux poids, voilà.
200 mètres.
La moyenne des gens mettent aux alentours de 2 minutes, 2 minutes 30 maximum. Donc c'est vraiment assez court par rapport à certaines épreuves.
Ouais, et puis ils ne s'arrêtent pas de courir avec les kettlebells. Hein. Ils repartent en courant.
Ah, tu cours avec.
Ouais, ouais.
Il faut pas perdre de temps.
Tu peux marcher, courir. Après, évidemment, après selon le niveau, ça dépend toujours de ton objectif. Hein, mais évidemment,
et donc
tu
as 32 kilos dans chaque main.
32 kilos dans chaque main. En fait, c'est juste une question de grip. Hein. C'est pas une question de poids. C'est à partir du moment que tu travailles bien ton grip. En fait, t'as l'aménésie. En fait, l'aménésie, t'as l'impression que ça colle tes mains et ça part tout seul.
Le poids des matins.
Voilà.
C'est juste le grip, hein, Benoît. C'est pas les muscles.
Ah non, mais c'est fou. C'est courir avec 64 kilos dans les mains. Oh, c'est ça, t'imagines?
Après, c'est ergonomique, un kettlebell. Hein. On ne demande pas de courir avec deux gros sacs énormes. Ouais, voilà, il y a le côté ergonomique, évidemment, qui est quand même assez. Pour moi, je trouve que c'est l'épreuve la plus, presque la plus simple. Mais
t'es en épreuve intermédiaire, donc là, t'es au milieu de ton défi.
Là, t'es à la sixième épreuve.
À sixième, quand même.
Donc, il reste deux runs derrière.
Ok.
Donc, l'épreuve intermédiaire, c'est le rameur. Ouais, c'est le rameur où vraiment là on peut aussi jauger.
Tout est étudié parce que le rameur finalement c'est. Est-ce que c'est vraiment sollicitant musculairement? Je sais pas. Ça, c'est...
Ah, ça dépend comment ça tu. Dépend. Ça dépend de tes forces, je pense.
Ouais, ouais.
Parce que t'en as qui n'ont pas trop de force de tirer par exemple.
Ouais,
tu tires quand même pas mal et ça peut te fatiguer quand même. Après, sachant que t'as eu quand même en atelier 3, t'as eu le sled pull. Donc du coup, des fois, parfois, t'as le grip qui
le
est déjà un petit peu fatigué.
Tirer
la luge avec la corde. Mm. Donc t'as quand même un petit peu entamé ton grip. Donc ça va dépendre aussi de tes forces, comme on disait tout à l'heure, et le profil d'athlète.
Ouais, ça dépend comment tu tires sur ton rameur. Moi, je tire beaucoup en jambes. Ça m'économise pas pour la course, mais tu peux tirer en dos. Ça dépend de comment tu peux choisir de ta façon de faire, quoi.
Okay. Voilà, faut vraiment. En fait, c'est vraiment une épreuve. Je pense que tu peux jauger et soit t'économiser, soit quelque part te cramer. Mais le fait d'être assis, déjà, le cardio permet de redescendre.
Bien sûr.
Et ça, c'est vachement intéressant. Faut le savoir. Ouais. Voilà, des fois, les gens s'en aperçoivent pas forcément, mais assis, évidemment, le cardio monte moins. Donc, c'est vraiment une épreuve. Même s'il y a 5 runs, il en reste 3. Dans la tête de beaucoup d'athlètes, c'est vraiment pour eux, c'est la moitié. Quoi.
Ouais.
C'est la moitié. Après, il y a la deuxième grosse moitié.
Johan, tu le pratiques, le rameur, à l'entraînement?
Pas du tout.
Jamais?
Non, jamais. Non, pas du tout rameur, moi.
Bon. Et les deux derniers exercices, c'est quoi alors?
On a dit le farmer. Ouais. Et ensuite, on a les fentes. Donc, les fentes, tout le monde voit ce que c'est, en marchant. Ouais. Mais avec un sac sur les épaules.
Quel poids?
C'est 10 kilos, 20 kilos ou 30 kilos pour les meilleurs hommes.
Donc 30 kilos
sur les épaules. 30 kilos sur les épaules.
À faire des fentes comme ça sur des
sur 100 mètres.
Sur 100 mètres.
En fait, c'est un peu l'épreuve ultime pour tes cuisses. Quoi.
Là,
tu les gorges de la clique.
Après, avec l'entraînement, tu t'habitues tu fais en fonction parce que tu n'as plus envie d'arriver le jour J à être complètement explosé à la fin des cuisses.
Ouais.
Mais globalement, c'est quand même le gros. C'est la grosse épreuve. Enfin, pour les cuisses, il n'y a pas pire.
Ah, c'est ça.
Et il y a un juge qui détermine si ta fente est bonne ou pas.
Oui, il y a des juges. Il y a des juges. Tout est jugé. Après, il y a peut-être sur la plateforme, il y a peut-être 5 ou 6 juges qui sont là pour regarder la technique de chacun.
Ouais. Ça, c'est bien. En tout cas, les pros sont très bien encadrés. On regardait la vidéo tout à l'heure avec Quentin, mais il y a vraiment un juge par pro. Donc là, tu n'as pas moyen de t'échapper ou de.
Ah, là, tu peux rien faire. Là, tu essayes. Non, tu peux pas. Là, tu
c'est ça. Il n'y a pas de négo possible.
Surtout que les pénalités sont assez dures. Donc. Autant faire bien.
Et raconte-moi la sensation, enfin vous pouvez me raconter vous aussi, mais quand tu repars avec des cuisses gorgées de lactique après les fentes pour refaire un kilomètre de run.
J'allais venir à ce run.
C'est ce que retiennent souvent les gens. Je dis après les fentes, là c'est plus à courir. Même si on a l'impression, on essaie de tout donner, les gens me suivent pas quoi. C'est assez fou quoi. Même si tu as cette espèce de mental disant c'est mon dernier run, je donnerai tout et je vais courir aussi vite.
Tu vois l'allure automatiquement baisser.
Tu vois sur les scores, tu perds 40 secondes.
Ah, quand même. 41 kilomètres.
En prorata, peut-être c'est certains qui vont perdre 2 minutes. Il y en a qui vont même marcher à l'envers. C'est très. C'est un des plus physiques et c'est vraiment le challenge. Le challenge, c'est ici.
Ah ouais.
C'est pour ça que quand tu cours à côté d'un gars, c'est pas parce qu'il court plus vite, moins vite, parce que finalement il y a plusieurs vagues en même temps. Ça dépend de d'où tu sors déjà.
Ouais, c'est ça.
Quand tu sors des fentes, on les voit les mecs sortir des fentes.
tu vois, il y a le ravitaillement, tu sais, un petit peu avant la sortie de zone. Et souvent t'as la queue après les fentes. Je rigole, mais t'as tout le monde qui est en mode, tu sais, qui marche, qui arrive plus à repartir, quoi.
Et en fait, d'un marathon, en fait.
C'est un peu ça, sauf que t'as il te reste 1000 mètres et il te reste donc on va parler de cette dernière épreuve qui est les 100 wall balls. Donc les wall balls, c'est un ballon dans les mains. Tu fais un squat et tu lances le ballon, qui est lesté. Ça peut être 4, 6 ou 9 kilos pour les hommes.
Okay.
Et en fait, tu vas faire ton squat et l'amplitude est jugée. Hein, donc, s'il n'est pas avec la bonne amplitude, c'est no rep. Donc, tu n'as pas envie de faire 12
no
rep.
Donc, tu repars,
Et en fait, tu dois lancer sur une cible. Tu dois lancer, donc tu fais un squat et tu lances ton ballon sur une cible.
C'est comme un panier de basket sans filet, quoi.
Ça doit toucher la cible. C'est à la verticale et ça doit juste toucher la cible. Et tu en as 100 à faire.
100.
Voilà. Et donc, si tu veux, même entre les fentes et le wall ball, tu cours ton 1000 mètres, mais en même temps, tu sais que tu as les wall balls derrière. Tu n'as déjà plus de jambes des fentes.
Ouais.
Tu essayes de courir. Tu tentes, tu vois, quand tu vois effectivement ton chrono après. Des fois, à chaque fois, je me suis dit, putain, ça va, je cours bien, en fait. Et après, tu regardes ton chrono, mais tu te dis, mais j'étais ridicule, en fait. C'est n'importe quoi. T'as l'impression d'avoir marché, en fait.
Mm.
Et à la fin, tu fais ces 100 wall balls qui sont ignobles, parce qu'après, tu lâches ce ballon, t'essayes d'aller à la ligne d'arrivée, tu franchis la ligne d'arrivée, tu t'écroules. C'est pas possible.
Mais c'est la même chose. Les jambes, là, elles sont détruites par les fentes, et tu arrives sur cet exercice-là où t'as encore 100 reps, c'est terrible.
Mais quand tu repars des fentes, pardon, Geoffrey. frais, mais quand tu repars des fentes pour les gens normaux, on dirait des petits pingouins sur la banquise.
Ouais, c'est ça.
Tout doucement, tu te dis, ouais, je vais vite, et en fait, pas du tout. Ouais, et après, tu arrives sur les wall balls, et effectivement, Anouk le disait, tu les vois s'écrouler, et même les pros, c'est très dur.
Après, c'est les jambes, et après, les wall balls, c'est beaucoup les épaules. Les épaules, ça crame pas mal. Plus on est, en plus, moins on est synchronisé, des fois, les gens vont faire un squat, ils s'arrêtent au milieu. Donc, ils se jettent avec les bras. Donc là, les épaules crament au maximum. Mais après, ça qu'on n'a pas trop parlé, je ne sais pas si on en parle après, mais c'est aussi l'ambiance qu'il peut y avoir. Et surtout, wall ball, quoi. C'est cool. En général, il y a tous les gens qui se regroupent ici, qui se regroupent autour de ce wall ball. Et il y a tous les...
C'est les 100 derniers mètres d'un marathon.
C'est les 100 derniers mètres. Il y a les tribunes, il y a les gens qui t'encouragent.
Il y a la musique. Il y a speakers. C'est vraiment cool.
Ça te met dans une transe, en fait, où tu as envie de bien faire.
C'est vrai qu'on ne l'a pas dit encore, mais il y a une vraie identité visuelle dans l'Aerox. Il y a ces couleurs noires et jaune, ça ressort bien. Enfin, c'est quelque chose de spectaculaire, hein. Des grands entrepôts comme ça, ou même des parcs d'exposition, comme on disait. Mais c'est à voir, même assister à une compète, je pense que c'est assez spectaculaire. Vous nous parlerez de l'épreuve parisienne qui a eu lieu d'ailleurs il y a quelques minutes. Je voulais juste te poser une question. C'est comment tu perds ta lucidité? Parce qu'à un moment, à force d'enchaîner les exercices aussi difficiles, est-ce qu'il y a des moments forcément en compète où tu es plus lucide, tu te retrouves sur le run, tu vois? Comment tu arrives à compter encore les exercices qui te restent à faire, tout ça?
En fait, pour la lucidité, il y a un tableau. En fait, il y a un tableau à chaque tour qui te dit si tu dois continuer à courir ou si tu dois rentrer dans le workout. Mais des fois, bon, évidemment, quand il y a du monde, le tableau, il descend très vite, quoi. Par exemple, il y a 20 noms. Si tu as 20 à passer sur le capteur, ton nom, il passe de en haut en bas en 2 secondes.
Ouais, c'est ça.
Mais on va dire, après, il faut essayer de rester au maximum lucide. C'est pas toujours facile. Il y a 15 jours, j'ai failli louper un tour. Mais bon, j'ai eu un adversaire qui a été très sympa, qui m'a fait un signe de la main, continue. Il y a la solidarité. C'est vachement dans l'esprit. Hein. Même si en compétition, il y a aussi cet état d'esprit. Mais après, la lucidité, des fois, elle n'est plus là du tout. Et c'est pour ça que les juges sont aussi là pour quand ils nous voient arriver, ils font vraiment des grands gestes. Hein. Ils sont là, ils tendent bien le bras pour dire où on doit aller, parce que sinon, c'est compliqué. Hein.
Quelle est la motivation? Parce qu'on en parlait aussi, la discipline est dominée pour l'instant, elle est récente. En 2017, elle est dominée par des Américains. Un Américain qui domine tout chez les hommes et 2 Américaines qui se tirent la bourre chez les femmes.
Ouais.
Quelle est la motivation des personnes comme elles, issues du CrossFit, pour venir sur l'Aerox? C'est parce que ça correspond plus à leur qualité? Pourquoi elles viennent comme ça?
Alors, je ne sais pas si elles sont issues du CrossFit.
Pas forcément.
Pas forcément.
Je crois que le champion américain vient de là.
Hunter, il faisait beaucoup de Spartan. McIntyre, il faisait beaucoup de Spartan. Beaucoup. Moi, j'ai commencé en 2015. Il était au championnat du monde en 2015 et tout ça. Il avait fait 5e au championnat du monde en 2015 quand même sur un format 28 km.
Donc, il a un profil coureur au départ.
Il a un profil mixte un peu parce que en plus son mantra c'était biceps win races, genre les biceps peuvent gagner des courses. C'est un personnage Hunter. Effectivement, il faisait beaucoup de Spartan Race. Après, il s'est mis plus dans un côté un petit peu CrossFit, et puis du coup l'Aerox est sorti pour lui, c'était une évidence, quoi.
On va lui envoyer Kevin Mayer, hein.
Ouais.
C'est le seul je pense qui peut faire un truc
après. Non, on a la demande de voir ce que peuvent donner des gens comme ça. Il y a encore il y a 15 jours, il y a eu un événement à Londres, et il y a eu un mec qui fait en général des podiums en Ironman. Alors, je connais pas du tout le nom. Il s'est complètement écroulé parce qu'il avait le run, il courait comme un fou, mais sur le workout il s'est écroulé. Après, bien préparé, j'imagine ces mecs là peuvent envoyer vraiment du très très lourd.
Alors moi, j'étais surpris aussi par le profil, parce que bêtement je me disais, il y a quand même 8 km de course à pied. Les mecs doivent être assez fit, tu vois. Et en fait, on a vu les premiers. Toi, je te trouve pas si épais que ça, finalement.
Tu l'as pas vu torse nu.
Non, mais j'imagine qu'il est taillé. Mais ce que je veux dire, c'est que
je suis un gringalet.
Cet Américain, par exemple, qui domine, c'est un vrai profil d'Américain, CrossFit man, très balèze, etc. Tu vois. On est loin du profil du coureur, tu vois, de haut niveau.
Il est passé par le CrossFit, donc il a eu le temps de se remplumer pendant qu'il a fait du CrossFit. Enfin, ce monsieur, il est quand même allé au CrossFit Games, donc c'est les championnats du monde de CrossFit en 2019. Il a un record sur un WOD légendaire du CrossFit, donc c'est quelqu'un quand même qui est très costaud. Il a eu le temps de s'en remplumer avec le CrossFit, mais effectivement on voit les deux styles.
Ce que je veux vous dire, c'est que sur le rapport endurance puissance, on est plus sur la puissance que l'endurance quand même.
Ouais, non, mais c'est clair, on voit les profils. Je vois que concrètement, alors c'est marrant parce qu'on parle de McIntyre, finalement je fais le même poids et la même taille que lui, mais ça se voit pas.
alors je vous invite à aller voir, vous allez sur le site de l'Aerox, vous regardez la dernière compète d'ailleurs où vous étiez ensemble, d'ailleurs il y a une vidéo
Non, on était ensemble au début seulement.
Barcelone, tu l'as. Barcelone, tu t'étais pas loin derrière. Tu l'as chassé quand même.
Barcelone, je lui ai tiré la bourre pendant 20 mètres. Je me dénigre un peu. Non, c'est vrai que Barcelone, je me suis bien défendu. Mais globalement, non. Après, c'est marrant parce que des fois, on a des. Globalement, il fait 1m80, peut-être 1m87. Moi, je fais 86 et on fait 92 kilos tous les deux.
Ok.
Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est deux personnes différentes au niveau du gabarit.
Ouais, non, mais après, c'est la génétique de chacun. Ouais. Moi, j'étais marqué par cette image. Je me disais, c'est un truc de profil quand même un peu endurant, même si c'est bien sûr des gens forcément très gainés et tout. Mais les gens sont quand même assez costauds. J'ai pas vu les profils féminins encore.
Alors, t'as un peu des deux. T'as vraiment un peu des deux. Après, la suédoise, là, elle est assez fine. Je crois qu'elle vient plutôt de la course à pied ou trail.
Suédoise, elle est vraiment du crossfit, elle.
Ah oui.
Norman.
Oui, mais avant, elle avait, il me semble qu'avant le crossfit, parce que tu vois, du coup, t'as le crossfit, mais avant, ils sortent. Et les Suédois, ils sont beaucoup coureurs déjà dès qu'ils sont jeunes. Mais elle paraît beaucoup plus fine déjà, tu vois, dans le profil. Et après, tu as des Allemandes genre Viola, je vois Viola, elle est assez fine quand même comme athlète. Mmh. Bon, après, tu as des muscles qui poussent.
Sans contredire, Anouk, je ne te contredis pas en public non plus. j'ai vu quand même l'évolution, surtout chez les femmes. Bon, chez les hommes aussi, globalement, en fait, si on veut un type, c'est les mecs qui font plus d'1m80 et plus de 80 kilos minimum.
D'accord.
Pour performer.
Alors on parle de haut niveau, nous.
C'est pour ça. Et chez les femmes, j'ai remarqué, ça va dans la tendance, c'est que les filles deviennent quand même de plus en plus épaisses. J'ai vu des filles, alors j'ai plus trop les noms, mais je les voyais, enfin tu les vois, mais elles sont métamorphosées en un an, certaines. Donc ça veut dire que la préparation a monté et la performance se fait aussi dans ce côté un peu volumineux.
C'est aussi la question que certains se posent certainement. C'est une discipline jeune. Pour l'instant, il n'y a pas de protocole antidopage qui est mis en place pour le haut niveau.
C'est en cours, je crois. Il y a beaucoup de réseaux justement qui sont tournés autour de l'aérox et qui parlent de ça, du dopage et tout. Et ils en parlent, mais d'une manière assez sérieuse. Et je pense que cette année, ils voulaient mettre ça en place. Comme ils disaient, ils pensent qu'ils vont le mettre en place. Et pour eux, il n'y aura pas de problème, il ne se passe à rien. Mais ils veulent au moins démentir peut-être des suspicions.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Mais au moins démentir. Et pour moi, je suis le premier. Je vais même courir devant tout le monde pour me faire tester,
bien sûr.
Testez-moi.
Quentin, toi qui es un spécialiste du CrossFit, qui a un podcast dessus, le monde antidopage sur le CrossFit, ça progresse? C'est contrôlé?
CrossFit, comme c'est une marque à part entière, nous disent qu'il y a des contrôles antidopage. Moi, je les ai vus aussi. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur Internet avec des vlogs de certains athlètes qui suivent. Il y a des contrôles antidopage. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est comme tout, on ne sait pas vraiment ce qu'ils testent. Et puis, comme il y a plein de molécules, tu vas chercher quelque chose en particulier.
Le principe d'un contrôle antidopage, tu trouves que ce que tu cherches. Donc, forcément, si tu cherches pas la bonne chose, c'est ce qu'on dit systématiquement. Mais malheureusement, c'est pour ça que l'enquêteur a toujours du retard sur le tricheur. C'est que si tu cherches pas la bonne molécule, forcément, tu ne vas pas trouver.
Et après, je pense sur le CrossFit et sur les Spartan Race. Hein, c'est beaucoup...
Décontrôlé, toi, d'ailleurs, sur les
Moi, j'ai jamais été contrôlé.
Jamais.
C'est plutôt des contrôles aléatoires.
Ouais.
Mais ça va être le jour de la compétition.
Okay.
Donc en réalité, si tu fais un protocole pendant des mois et que t'es clean pendant 2 mois, t'arrives le jour J, normalement c'est pas décelé, tu vois ce que je veux dire. Donc après, c'est un peu, il faudrait mettre en place des contrôles réguliers pour tout le monde. Enfin, je pense que même en CrossFit, c'est la même chose, je pense. Donc c'est assez compliqué. Après en CrossFit, je crois qu'ils commencent à aller contrôler tu vois, genre le top 5 mondial ou top 10, ils commencent à aller les contrôler régulièrement dans les entraînements, mais bon.
Mais Geoffrey, toi qui es le meilleur français et qui lutte face à des internationaux, jamais tu te poses la question de te dire... Un mec a une progression fulgurante, lui il marche sur l'eau, lui il courait pas aussi vite avant. Enfin, je sais pas, tu.
Bah, c'est ce qu'on. C'est un peu.
Quand tu sais qu'il y a pas de contrôle, c'est encore plus frustrant, je trouve. Tu vois.
En fait, on se dit, moi j'ai envie de me dire qu'il y a pas de personne est dopé pour me dire voilà, je suis à ma place.
T'as pas envie de rentrer dans ce schéma là, quoi.
Ouais, des fois on se pose toujours un peu la question on se dit après, comme c'est un sport récent, faut savoir que la préparation physique est aussi récente.
Ouais.
Donc l'amélioration est aussi grâce à cette qualité de préparation qui se fait de mieux en mieux, quoi.
C'est normal qu'il y ait des progressions fulgurantes.
Oui, voilà. Après, ça dépend de la progression. Voilà. Si déjà le mec il est au top niveau et il remonte encore quelque chose d'extraordinaire, on peut se poser la question. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais voilà, j'ai envie d'espérer que les mecs devant sont clean.
Si on parle d'équipement, il y a 8 km de course à pied à faire, tu mets quelles chaussures, par exemple?
Alors moi, je mets... on parle de marque ou pas?
Oh, tu peux.
Ouais, je prends des Puma Devit Elite Pro 2.
Okay.
En gros, pour moi, voilà, l'avantage de cette paire, alors peut-être qu'on peut retrouver dans d'autres paires, je ne suis pas non plus le plus spécialiste du running, que ce soit des chaussures légères...
Tu fais tous tes workouts avec des paires running?
Pas en compétition.
Ah oui, en compétition. Ouais, en compétition. Ouais. Et ce qu'il faut, en gros, c'est une chaussure légère avec une semelle pas trop haute. Éventuellement, pourquoi pas, on peut en discuter, une plaque de carbone, c'est toujours un...
Ah, donc certains peuvent faire avec plaque carbone.
Ah, il n'y a pas de règle là, au niveau du carbone.
Ok.
Ah, non, il n'y a pas de règle. Plaque de carbone, en gros, il faut une chaussure légère. Et surtout, le plus important, mais ça, c'est un peu le dernier truc, mais on s'en aperçoit le jour J, surtout qu'il y a une bonne accroche en dessous de la chaussure. Parce qu'en vrai, au sled, ça glisse.
Ouais. Ouais. Bien sûr.
Ouais, ça glisse.
Ouais. Et puis, il faut qu'elle soit stable. Il faut une chaussure
C'est pour ça qu'il ne faut pas trop de hauteur sur la semelle. Quoi. Un petit drop, pas trop de hauteur.
Ah, ok.
Ouais. Et que ça soit hyper stable. J'avais couru il y a 2 ans, justement, j'avais testé le jour J. Alors, le truc à pas faire, j'avais testé la paire de Vaporfly.
Ah oui, Nike.
Non, mais j'avais pété
le carbone.
J'avais pété portefeuille.
La chaussure s'est ouverte.
Non, par contre, je courais super bien en ligne droite, c'était génial, mais les workouts.
Ouais, mais dans les virages.
Exactement, dans les virages et la stabilité sur les fentes et les voies de bosse, c'était.
Et ben ouais, c'est ça. La mousse, elle s'écrase et le pied, il part, ouais.
Tu l'as payé.
Et sur l'alimentation, tu fais comment? Tu t'alimentes sur les runs?
Alors moi, j'ai une spécificité, c'est que je m'alimente très peu. Je prends un gel maximum par course que j'ai dans la poche, et souvent il me dure plusieurs courses.
Ah ouais?
Ah ouais. Le radin.
Bah oui, évidemment, c'est un sport amateur. Hein. Il y a plusieurs stratégies. Je pense qu'au niveau des gels, globalement, moi, ce que je conseille aux athlètes que je prépare aussi, c'est au moins avoir 2 à 3 gels et les prendre juste après un workout. C'est la stratégie.
T'as le temps de le digérer.
Après des workouts qui sont assez digestes. Juste après les burpees, j'ai envie de te dire, vu que t'as le cardio à 180, là je déconseille un peu.
Ouais.
Pourquoi pas après un sled où ça demande.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire.
Je parlais d'une grosse énergie. T'as l'impression vraiment de perdre 30% de ton énergie, mais en 2 secondes. Là, ça peut être intéressant. Après, chacun voit sa stratégie, mais je dirais que c'est important au moins d'avoir 3 ravitaillements dans la course.
Après, est-ce que c'est révélateur? Je rappelle que le record du monde, donc c'est la même distance pour tous, hein, c'est 8 km avec 8 workouts. Le record du monde, il est à 53-23.
53-23.
C'est-à-dire que le gars a fait ça en moins d'une heure, déjà, ouais. 53-23. Chez les femmes, c'est 58-58, Megan Jacoby.
Ouais.
Et après, il y a les courses en double aussi, mais toi, tu es sur 56-34, ton record.
Ça a changé. 56-46.
Ah pardon, 56-46.
Je déconne. Non, mais ça, c'est 56-46.
Voilà, donc tu vois, c'est sur moins d'une heure d'effort, donc tu comprends que Geoffrey Yodu prenne seulement un gel.
Ça suffit. Ouais, c'est comme moi quand je cours un semi, c'est à peu près une heure d'effort, donc effectivement une heure, t'as pas besoin de. Mais pour les amateurs qui vont mettre une heure et demie. La dépense énergétique.
Après, ça dépend de la gestion d'effort. Voilà, c'est savoir si évidemment ça se travaille aussi à l'entraînement, l'alimentation. Mais voilà, on va dire que personne qui fait une heure et demie d'effort, on lui conseille au moins 3 gels. Hein.
Mmh. Ouais. Question bête à tous les 3. Si je ne suis pas un spécialiste de tous ces workouts, est-ce que je peux m'inscrire à une compète et me pointer sans trop d'entraînement si je suis un bon coureur?
Carrément,
est-ce que je peux m'en sortir?
Ouais, carrément.
Ouais,
ouais. Surtout si, au final, je trouve que la course à pied, tu vois, tu le disais tout à l'heure, c'est la partie qui est longue en fait. Tu vois, c'est plus. Après, sur les workouts, tu peux être meilleur, entre guillemets, sans le savoir, sur du sled push, où tu vois, tu vas peut-être mieux t'en sortir et c'est plus simple de s'adapter que la course à pied, c'est quand même difficile, tu vois, c'est long. Mmh. Donc, je pense que, quelqu'un qui court plutôt bien, même quelqu'un qui court pas bien, qui a envie de se lancer un défi, je lui dirais d'y aller, en fait.
Parce qu'il y a un chiffre quand même qui est intéressant pour l'Aerox, c'est qu'il y a un taux de réussite de 98%. C'est-à-dire qu'il y a 98% des partants amateurs qui finissent la compète.
Ouais.
C'est plutôt encourageant parce que sur le papier, ça peut faire peur. Tout ce qu'on a détaillé depuis tout à l'heure, ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se dire « Moi, je ne vais pas y aller, c'est trop traumatisant. Laissez-moi tranquille après les fentes, j'arrête et je ne veux pas marcher comme Walking Dead. » Mais finalement, tout le monde va au bout quasiment.
Ah non, tout le monde va au bout. En fait, il faut savoir que les 2%, je dirais que 1,9%, c'est les gens qui sont mis en pro. Alors qu'ils avaient en charge lourde, ils n'avaient rien à faire là.
C'est un problème de charge.
Si c'était mis en charge open, ils auraient largement fini. Tout le monde peut finir. Alors, comme disait Anouk, un coureur simple, il peut finir. Après, on va lui conseiller, écoute, sur le workout, prends ton temps.
Ouais, mais c'est ça.
Globalement, tout le monde est capable de le faire. Ah, et encore mieux, avec une petite préparation. Rien que 4 semaines de préparation, tout le monde est capable de le finir. Après, la performance.
Non, bien sûr. Non, mais là, on ne parle pas d'aller chercher une performance. Il faut se dédier à la discipline. C'est toujours pareil.
Quelqu'un qui fait du crossfit 3 fois par semaine et sans entraînement, il est capable de le finir. Bon, évidemment, comme on en discutait en off, il va sûrement être dans le dur dans la course à pied.
Comme Quentin, c'est sûr, c'est le premier. Moi, c'est sûr.
Si je l'appelle, c'est sûr que c'est là-dessus que je
kilomètres, mon petit pote. Hein.
Ah ouais. Nous, on est à 800 mètres en règle générale.
Sur la durée, par exemple, du record du monde 53 minutes, Il y a quoi? Il y a 35 minutes de course et 20 minutes d'exo là, c'est quoi le pourcentage?
Alors là, sur le coup, c'était McIntyre, donc on ouais. répète son nom, un Américain un peu foufou. D'ailleurs, c'est vraiment un personnage. Hein. Allez voir ses vidéos, c'est assez intéressant. c'est 29 minutes 30 sur le run et après le reste, ça représente 24
ouais, donc
minutes.
Donc 30 minutes
dans
de
tous
run
les cas,
et
dans 24
minutes.
Dans tous les cas, c'est souvent plus de run que de,
bah
que
oui,
de workout.
Ça.
Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, ça vous
donc le coureur va déjà, tu vois, tu as toute cette partie qui est déjà, il sera le coureur aura un avantage quoi.
Et juste, je trouve que c'est intéressant de commencer vraiment si tu as peur, tu peux le faire en duo. Donc ça c'est assez sympa de
comment
le faire en duo.
Comment ça se passe? Qui choisit qui fait quoi?
Alors en fait, les deux courent déjà. Voilà, les deux doivent
courir. Moi je voulais courir et laisser Johan faire les workouts. Non, c'est pas possible.
Ça tu vas pousser toi.
Et par contre, sur les workouts, tu partages comme tu veux. Donc du coup, t'as la moitié à faire. Si tu prends un pote qui est un peu meilleur en crossfit, tu le tires un peu sur la course à pied et t'alternes sur les workouts. Donc c'est plutôt pas mal.
Mais ça veut dire quoi?
Enfin, vous faites pas avoir, messieurs. Hein, si vous êtes en duo avec une dame, très souvent, c'est vous qui poussez plus le sled.
Et elle a fait le rameur.
Non, pas
elle
avec
fait
moi.
Le rameur et le skieur.
Mettez-vous avec moi. Alors.
Tu dis ça à côté d'Anouk, quoi. Ça, c'est pas sûr.
Moi, j'aimerais que tu viennes avec moi, Anouk.
Dans ces cas-là, ça fonctionne pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un aller-retour à faire sur un workout, on peut se partager, par exemple.
Tu partages tout. C'est-à-dire que au milieu de l'aller, t'en peux plus.
C'est une bonne façon de démarrer.
L'autre prend quand t'en peux plus, en fait. C'est un peu ce qu'on appelle you go, I go. C'est-à-dire, t'y vas et quand t'en peux plus, bah c'est moi qui vais en fait. Et en fait tu fais ton workout comme ça, du coup t'as des options de récup en fait. C'est
non,
ça
bien
qui est
sûr.
Cool. Toi Geoff, tu le fais en duo aussi en compète?
En compète ouais, je fais aussi en duo ouais. Justement mais faut savoir qu'en duo mixte, c'est, je le conseille pas aux nanas qui sont pas trop entraînées parce que c'est des charges
ouais,
pro
voilà,
pour elles.
C'est ça.
Donc
ça qui est difficile pour les femmes. Soit si elles se mettent en double, faut se mettre avec une femme parce que ça va être quand même plus facile. Si elles se mettent avec un homme, automatiquement, ce sera les charges pro pour elles.
Okay.
Donc ça va être un peu compliqué. Ah, mais une nana qui est bien entraînée, non, ça c'est cool. Moi, justement, je le fais avec ma partenaire d'entraînement, c'est clair.
Mais ce qui est sympa pour toi, c'est que ça doit renforcer, ça doit être encore plus dynamique de le faire à deux parce que tu vas plus vite forcément.
Ah oui, à deux, c'est en plus, en l'occurrence, je le fais avec Jésabelle Crémer qui est la numéro 1 française. Donc on s'est associés tous les deux sur ces courses-là. Et du coup, ça fait une sacrée émulation. C'est une fille qui a quand même une certaine condition physique. Après, on choisit, soit on le fait avec un pote voilà, qui n'a pas forcément trop de conditions, mais il faut savoir où on va. Quoi. Si on fait avec un pote qui n'a pas de conditions, bon, on sait que ça va être. On va se promener. Parce que le problème, c'est que si la différence physique est déjà là, au fur et à mesure, la différence, ça va s'élargir. Et à la fin, il y en a un qui va être mort et l'autre qui va être en pleine forme.
Ouais, c'est ça, c'est sûr. Anouk, juste pour terminer, conseil de coach sportif, comment je m'entraîne précisément? Je prends un dossard. Je suis un coureur,
ouais.
J'ai envie de me faire plaisir sur une fin d'année. Je veux aller à Nice, pourquoi pas, l'étape qui arrivera l'année prochaine.
Ouais, inscris-toi déjà.
Ouais,
et ensuite, ce que je conseille de faire, c'est de tester un petit peu les différents exercices, ouais. Mais pas sur la distance complète qu'on a dans l'Aerox. Donc par exemple, si tu veux tester un petit peu le ski erg, fais déjà des 250 mètres. Tu vois, tu vas le faire en intervalle. Par exemple, tu as 1000 mètres à faire en ski erg. Fais-toi 4 fois 250 mètres à une allure que tu peux tenir 1000 mètres. Tu vois.
Okay.
Donc, des intervalles comme ça sur les ergos, que ce soit ski erg ou rameur. Et ensuite, tester un peu le sled push, tester les wall balls parce que c'est un exercice aussi. On parlait de conditions physiques, mais aussi de fonctionnel. Ça demande de la mobilité. De descendre en squat complet, donc de tester un petit peu les wall balls et de se faire des trainings ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire où il va y avoir un peu de course à pied, un peu d'ergo, donc ski erg ou rameur, et puis un ou deux exercices fente et burpees par exemple.
Mais ça, c'est un truc que je peux intégrer dans ma semaine d'entraînement de course à pied.
Mais carrément, et en fait, moi je trouve que ça, c'est vachement bénéfique aussi pour un coureur parce que finalement, c'est un workout où tu vas avoir du renforcement musculaire, tu vas travailler ton cardio, tu vas pouvoir te mettre dans une zone un petit peu en seuil, entre guillemets. Donc finalement, ça va t'apporter aussi quelque chose de très intéressant et de très transférable sur la course à pied.
Et sur l'Instagram d'Aerox aussi, ils proposent d'ailleurs plein d'entraînements si vous voulez trouver des choses intéressantes à faire. Et ils sont très très durs.
Et Geoff, il fait des programmes aussi.
Aerox. Je veux pas y aller, lui.
non, à tout niveau.
200 kilos, non merci.
Tout niveau.
On se rend bien compte que chacun son niveau, chacun ses objectifs. Ça, c'est important de bien le.
Tu pousses 3 iodus, je te rappelle. Ça m'intéresse pas. Non, mais Johan, toi qui vas souvent à la salle, c'est des exercices que tu peux pratiquer parfois, j'imagine. Comme ça, le renfo, c'est.
Non, mais le ski erg ou le l'aviron, là, comment ça s'appelle?
Rameur.
Le rameur, pardon. L'aviron. J'ai cherché le nom. Je l'avais en anglais, mais je l'avais pas en français. Et l'aviron, non, mais c'est des choses que je peux faire quand je suis blessé. Et après, bah, effectivement, les fentes, alors voilà, nous, on tracte pas, on tire pas, mais, les burpees, les fentes, et même, les soulevés, enfin, les squats plus jetés de ballon, les wall ball, là, c'est des exercices que j'ai pu faire déjà dans ma préparation physique générale, ça, c'est sûr.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, excuse-moi Yodu, c'est que ça va se transférer derrière sur la course à pied en fait. Voilà. C'est le fonctionnel, c'est je vais développer un mouvement qui est mécanique, donc une meilleure mécanique de mouvement, ça veut dire que ça va s'optimiser aussi sur la mécanique de la course à pied. Le sled ou les squats ou les fentes, ça va améliorer ton endurance musculaire, donc ça va être très utile sur la course à pied.
Surtout sur les longues distances.
Voilà, surtout.
Moi, je vois plus d'intérêt à des exercices comme ceux-ci plutôt que du développé couché pur et dur.
Ah, bah,
complètement. Pour la course, ouais.
Bah, bien sûr. Donc, en fait, c'est mieux de faire du dynamique comme ça. Et
pas progresser en course à pied, à un moment, il faut faire autre chose que de la course à pied, on le sait.
Bien sûr.
Et ça, c'est
bien marginaux.
Voilà. Et c'est une très, très bonne façon de progresser. Et puis, du coup, de se mettre un nouveau challenge qui est un petit peu différent.
Sortir de sa routine.
Exactement. Alors, je rappelle un peu le marché français de l'Aerox. Donc, ça a été ouvert en août 2023, vous étiez à l'épreuve parisienne, d'ailleurs ça s'est bien passé. Tu l'as fait, tu as participé toi?
J'ai participé, bien sûr.
C'était cool, bonne ambiance?
Super ambiance, franchement, c'était la première et tout le monde, en fait, tout le monde l'attendait depuis des années.
Alors,
les Français disent dans combien de temps ça arrive, Donc quand ça arrivait, ça a fait carton.
C'était le 11 juin, 3500 athlètes.
Le 11 novembre,
2500 spectateurs, il y avait du monde. Ouais. Tu y étais aussi toi?
Ouais, moi j'étais avec les spectateurs, franchement, une expérience incroyable. Ouais. Moi qui ai fait beaucoup de compétitions crossfit, là faut se dire qu'on est au milieu de la boucle de course.
Ouais.
Donc on est vraiment on est à côté des workouts, on voit les gens,
que
Geoffrey le disait, on peut être à côté d'eux pour les encourager et leur crier dessus. C'est vraiment un très beau spectacle et c'est vraiment super à faire.
Qui était aussi à nous que c'était
J'ai participé, j'ai failli mourir comme d'habitude. Non mais on l'a pas dit, mais c'est vrai que le Aerox c'est quand même toi contre toi, tu vois, c'est vraiment être capable de sortir de cette zone de confort et de rester dans cette zone inconfortable longtemps. Mais je trouve qu'on apprend toujours et l'ambiance était folle, il y avait tout le monde de CrossFit, Sparta, de fitness qui était là, donc tout le monde s'encourageait, c'était vraiment cool.
Il y a un vrai esprit d'unité et de solidarité.
Ouais. Le public français est quand même incroyable sur des compétitions quand c'est chez nous. Souvent, ils sont au rendez-vous et ils sont vraiment mobilisés. C'est quand même incroyable.
18 salles de sport affiliées à Aerox depuis le mois d'août.
Alors, petite erreur, 118.
À 118 il y a quelques erreurs, décidément. C'est bien, vous pouvez trouver près de chez vous donc une salle
ils vont sur le site internet Aerox France et en fait, il y a un onglet où ils peuvent trouver la salle de sport affiliée à Aerox.
Événement à Bordeaux le 27 avril, ça c'est bon ?
27 avril, ouais.
Là, c'est complet, d'ailleurs.
Ouais. C'est complet.
Ah, dommage, je voulais y aller.
Tu peux venir nous encourager.
Ouais, c'est ça.
Alors, en off, ils essaient de tout faire pour essayer de trouver plus de
pousser
plus,
les murs.
C'est un peu les murs, on va dire, d'une certaine manière. Bon, après, il n'y a pas de promesse, mais c'est juste pour dire le carton, parce que ça a été rempli en 3 semaines.
Ouais. 3-4
semaines.
4000 places vendues en 3 semaines. Donc là, c'est dire.
On a l'allure,
mais... Du coup, il y a des sas de départ. Comment ça c'est échelonné sur toute la journée?
C'est toutes les. En fait, il y a un départ de 30 à 40 personnes selon ces 30 binômes ou 40 personnes toutes les 10 minutes. Et c'est tellement bien ficelé qu'il n'y a jamais un problème, il n'y a pas de bug.
Tu rattrapes pas
il n'y a jamais de bouchons avant.
C'est pour ça que les épreuves ont été si pensées d'une manière. Ils commencent par le sled, parce que le sled, c'est là qu'il pourrait y avoir des bouchons. Bon, on met les sleds en premier, comme ça, au moins, il n'y aura pas de bouchons à la fin. Et les fentes, c'est tout droit. Il y a un espace de 4 mètres de chaque côté, donc tout le monde peut passer. Quoi.
Ouais, c'est vraiment des. Okay. Faut imaginer de grands espaces. Quoi.
On est
à l'intérieur,
tout est grand.
Ouais. Autres événements importants en 2024, championnat du monde à Nice.
Championnat du monde à Nice, alors ça c'est réservé à ceux qui vont se qualifier pour les championnats du monde.
Événement régulier en plus, donc peut s'inscrire.
Là on peut s'inscrire, ça sera fin octobre je crois.
C'est pas la même date,
c'est pour ça, faut pas comprendre. Voilà. Ceux qui habitent dans la région de Nice, venez voir les championnats du monde, c'est vraiment.
Il y aura un deuxième événement fin d'année prochaine à Paris.
Ce qu'on appelle un événement régulier. Ouais.
Voilà, donc là ce sera une tradition, l'Aerox parisien.
Ça sera je pense que ce sera un très très gros événement.
Ah en plus, on va monter en puissance.
Vous allez voir, on dit rien, mais bon, ça sera un gros événement.
Ok, et je précise d'ailleurs que l'Aerox nous offre et vous offre à vous, auditeurs de RMC Running, 3 dossards pour l'épreuve de Nice, donc pas les championnats du monde, mais l'épreuve ensuite. Est-ce que tu as la date d'ailleurs, Geoffrey?
C'est, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est fin octobre, mais j'ai pas la date exacte. Okay.
Bon, on vous précisera d'ailleurs sur nos réseaux la date exacte. Donc 3 dossards si ça vous intéresse. Vous réécoutez bien les conseils. Vous n'y allez pas n'importe comment, surtout. Et vous pouvez y aller en duo aussi d'ailleurs, ouais. Peu importe le dossard.
Ou en relais aussi, il y a des relais.
Ou en relais.
Donc, d'ailleurs, ouais, voilà, c'est vraiment, en fait, si je peux dire, voilà, ouais. Ceux qui aiment la fête et le sport, c'est le
sport. Ah, mais faut pas dire ça.
Voilà. La fête dans le sens où, comme c'est hyper festif, il y a la musique toute la journée, ouais. Les micros, les machins, l'émulation. Ouais. C'est un côté hyper. Voilà, on n'a pas trop mis en avant, mais c'est ce côté aussi là que les gens viennent chercher.
Ouais, tu viens voir de, il y a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a de la transpi.
Voilà.
Ouais. Beaucoup de transpi. Ouais.
Exactement. Bon, merci à tous d'être venus pour parler de cette discipline. Merci Anouk. À bientôt. Encore une fois, tu viens quand tu veux dans l'AMC Running. Merci Quentin.
Ben, merci de l'invitation.
On se voit vendredi de l'autre côté de la vitre.
Ça marche.
réalisateur de Rotten sans flamme, évidemment, 18h-20h. Rappelle-nous le nom de ton podcast sur le CrossFit.
Drop in le podcast. Drop-in. Et d'ailleurs, Geoffrey doit venir.
Et ben voilà.
Et ben, c'est avec grand plaisir.
Et Geoffrey Voisin, voilà, le meilleur français à l'Aerox, qui viendra dans ton podcast et qu'on remercie d'être venu représenter cette belle discipline.
Merci à vous, en tout cas, c'était vraiment une belle expérience.
Et ben merci. Merci Yodu, à toi. Salut également. À et puis, toujours ce conseil pour terminer RMC Running, quand vous courez ou quand vous faites de l'Aerox, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.